Troisième partie. Le roi volé. Chapitre 1. Les époux ennemis. Depuis 8 mois, la reine Isabelle vivait en France. Elle y avait appris la liberté et rencontré l'amour. Et elle avait oublié son époux, le roi Édouard. Celui-ci n'existait plus en ses pensées que d'une façon abstraite, comme un mauvais héritage laissé par une ancienne Isabelle qui eût cessé d'être. Il avait basculé dans les zones mortes du souvenir. Elle ne se rappelait même plus, lorsqu'elle voulait s'y forcer pour raviver ses ressentiments, l'odeur du corps de son mari, ni la couleur exacte de ses yeux. Elle ne retrouvait que l'image vague et brouillée d'un menton trop long sous une barbe blonde et l'onduleux, le désagréable mouvement du dos. Si la mémoire fuyait, la haine, en revanche, restait tenace. Le retour précipité de l'évêque Stapledon à Londres justifia toutes les craintes d'Édouard et lui montra l'urgence qu'il y avait à faire revenir sa femme. Encore fallait-il agir avec habileté et, comme disait Hugues le Vieux, endormir la louve si l'on voulait qu'elle regagnât le repère. Aussi, les lettres d'Édouard pendant quelques semaines furent celles d'un époux aimant qu'affligeait l'absence de sa compagne. Les Despenser eux-mêmes participaient à ce mensonge, en adressant à la reine des protestations de dévouement et en se joignant aux supplications du roi pour qu'elle leur accordât la joie de son prompt retour. Édouard avait également chargé l'évêque de Winchester d'user de son influence auprès de la reine. Mais le 1er décembre, tout changea. Édouard, ce jour-là, fut saisi d'une de ces colères soudaines et démentes, une de ces rages si peu royales qui lui donnaient l'illusion de l'autorité. L'évêque de Winchester venait de lui transmettre la réponse de la reine. Celle-ci répugnait à regagner l'Angleterre par la crainte que lui inspiraient les entreprises de Hugues le Jeune. Elle avait d'ailleurs fait part de cette crainte à son frère, le roi de France. Il n'en fallut pas plus. Le courrier qu'Édouard dicta à Westminster pendant 5 heures d'affilée allait plonger les cours d'Europe dans la stupéfaction. Et d'abord, il écrivit à Isabelle elle-même. Il n'était plus question à présent de « doux cœur ».« Dame, écrivait Édouard, souvent fois nous vous avons mandé, aussi bien avant l'hommage qu'après, que pour le grand désir que nous avons que vous fussiez auprès de nous, et le grand mésèse de votre longue absence, vous vinciez par devers nous en toute hâte et toute excusation cessante. Avant l'hommage, vous étiez excusé pour cause de l'avancement des besognes, mais depuis lors, vous nous avez mandé par l'honorable père évêque de Winchester que vous ne viendriez point, par peur et doute, de Hugues le Despenser, ce dont nous sommes grandement étonnés, car vous envers lui et lui envers vous, vous êtes toujours fait louange en ma présence, et nommément à votre départir, par promesse spéciale et autre preuve de confiante amitié, et encore par vos lettres particulières qu'il nous a montrées. Nous savons de vérité, et vous le savez également, dame, que le dit Hugues nous a toujours procuré tout l'honneur qu'il a pu, et vous savez aussi que honque nulle vilainie ne vous fit depuis que vous êtes ma compagne, sinon, et par aventure une seule fois, et par votre faute. Veuillez vous en souvenir. Trop nous déplairait, à présent que l'hommage a été rendu à notre très cher frère le roi de France et que nous sommes en si bonne voie d'amitié avec lui, que vous fussiez, vous que nous envoyâmes pour la paix, cause de quelque distance entre nous et pour des raisons inexactes. C'est pourquoi nous vous mandons et chargeons et ordonnons que toute excusation cessante et fin prétexte, vous reveniez à nous en toute hâte. Quant à vos dépenses, quand vous serez venu comme femme doit faire à son seigneur, nous en ordonnerons de telle manière que vous n'ayez faute de rien et ne puissiez en rien être déshonoré. Aussi voulons et vous mandons que vous fassiez notre très cher fils Édouard venir par devers nous à plus de hâte qu'il pourra, car nous avons moult grand désir de lui voir et parler. L'honorable père en Dieu Wautier, évêque d'Exester, nous a fait entendre naguère que certains de nos ennemis et bannis, lorsqu'ils étaient devers vous, le guettèrent pour vouloir faire mal à son corps s'ils en avaient eu le temps, et que, pour échapper à tel péril, il se hâta de vers nous sur la foi et l'allégeance qu'il nous devait. Nous vous mandons ceci pour que vous entendiez que le dit évêque, lorsqu'il partit si soudainement de vous, ne le fit pour autre raison. Donné à Westminster le 1er jour de décembre 1325. Édouard. Si la fureur éclatait dans le début de la missive et le mensonge ensuite, le venin était bien savamment placé à la fin. Une autre lettre, celle-ci plus courte, était adressée au jeune duc d'Aquitaine. Très cher fils, si jeune et de tendre âge que vous soyez, remembrez-vous bien ce dont nous vous chargeâmes et que vous commandâmes à votre départir de nous à Douvres, et ce que vous nous répondîtes alors, dont nous vous avons su moult bon gré, et ne dépassez ou contrevenez en nul point ce dont nous vous chargeâmes alors. Et puisqu'il est ainsi que votre hommage est reçu, présentez-vous devers notre très cher frère le roi de France, votre oncle, et prenez votre congé de lui, et venez par-devers nous en la compagnie de notre très chère compagne, la reine, votre mère, si elle vient tantôt. Et si elle ne vient pas, venez en toute hâte, sans plus longtemps demeurer, car nous avons très grand désir de vous voir et parler, et se ne laisser de le faire en aucune manière, ni pour mère, ni pour autrui. Notre bénédiction. Les redites, ainsi qu'un certain désordre irrité des phrases, montraient bien que la rédaction n'avait pas été confiée au chancelier ni à quelques secrétaires, mais était l'œuvre du roi lui-même. On pouvait presque entendre la voix d'Édouard dictant ses messages. Charles IV le Bel n'était pas oublié. La lettre qu'Édouard lui adressait reprenait, et presque terme pour terme, tous les points de la lettre à la reine. Vous avez entendu par gens dignes de foi que notre compagne, la reine d'Angleterre, n'ose venir par-devers nous par peur de sa vie et doute qu'elle a de Hugues de Spencer. Certes, très aimé frère, il ne convient pas qu'elle se doute de lui ni de nul autre homme vivant en notre royaume, car par Dieu, il n'y a ni Hugues ni autre vivant en notre territoire qui mal lui voulût, et s'il nous venait de le sentir, nous le châtierions en manière que les autres en prendraient exemple, ce dont nous avons assez le pouvoir, Dieu merci. C'est pourquoi, très chers et très aimés frères, encore vous prions spécialement pour honneur de vous et de nous, et de notre dite compagne, que vous veuillez tout faire pour qu'elle vienne par-devers nous le plus en hâte qu'elle pourra. Car nous sommes moult chagrinés d'être privés de la compagnie d'elle, chose que nous n'eussions en nulle manière faite sinon par la grande sûreté et confiance que nous avions en vous et en votre bonne foi qu'elle reviendrait à notre volonté. Édouard exigeait également le retour de son fils et dénonçait les tentatives d'assassinat imputables aux ennemis et bannis au-delà, dirigées contre l'évêque d'Exeter. Certes, la colère de ce 1er décembre avait dû être forte et les voûtes de Westminster en répercutaient longtemps les échos criards. Car pour le même motif et sur le même ton, Édouard avait écrit encore aux archevêques de Reims et de Rouen, à Jean de Marigny, évêque de Beauvais, aux évêques de Langres et de Laon, tous pères ecclésiastiques, aux ducs de Bourgogne et de Bretagne, ainsi qu'aux comtes de Valois et de Flandre, pères laïcs, à l'abbé de Saint-Denis, à Louis de Clermont-Bourbon, grand chambrier, à Robert d'Artois, à Mille de Noyers, président de la Chambre aux Comtes, au connétable Gaucher de Châtillon. Que Mahô fût le seul pair de France excepté de cette correspondance prouvait assez ses relations avec Édouard, et que celui-ci ne jugeait pas de besoin de l'avertir officiellement de l'affaire. Robert, en décachetant le pli qui lui était destiné, entra en grande joie, et arriva, tout s'esclaffant et se frappant les cuisses, chez sa cousine d'Angleterre. La bonne histoire est bien faite pour qu'il la savourât. Ainsi, le roi Édouard envoyait chevaucheurs aux quatre coins du royaume pour instruire chacun de ses déboires conjugaux, défendre son ami de cœur et clamer son impuissance à faire rentrer son épouse au foyer. Infortuné pays d'Angleterre, en quelle main d'étoupe le sceptre de Guillaume le Conquérant était-il tombé? Depuis les brouilles de Louis le Pieux et d'Aliénor d'Aquitaine, on n'avait rien ouï de meilleur. « Faites-le bien, cornard, ma cousine !» criait Robert, « et sans y mettre de gantelets, et que votre Édouard soit forcé de se courber en deux pour passer les portes de ses châteaux. N'est-ce pas, cousin Roger, que voilà tout ce qu'il mérite ?» Et il frappait gaillardement l'épaule de Mortimer. Édouard, dans son emportement, avait aussi décidé des mesures de rétorsion, confisquant les biens de son demi-frère, le comte de Kent, et ceux du lord de Cromwell, chef d'escorte d'Isabelle. Mais il avait fait plus. Il venait de sceller un acte par lequel il s'instituait gouverneur et administrateur des fiefs de son fils, duc d'Aquitaine, et réclamait en son nom les possessions perdues. Autant dire qu'il réduisait à néant et le traité négocié par sa femme et l'hommage rendu par son fils.
« Libre à lui, libre à lui !» dit Robert d'Artois. « Nous allons donc lui reprendre une nouvelle fois son duché, du moins ce qu'il en reste. Les arbalètes de la croisade commencent à se rouiller. »
Nul besoin pour ce faire de lever l'ost, ni d'expédier le connétable dont l'âge durcissait les jointures. Les deux maréchaux, à la tête des troupes permanentes, suffiraient bien à les cogner un peu en bordelais sur les seigneurs gascons qui avaient la faiblesse, la sottise, de demeurer fidèles au roi d'Angleterre. Cela devenait une habitude, et l'on trouvait chaque fois moins de monde en face de soi. La lettre d'Édouard II fut l'une des dernières que lut Charles de Valois, l'un des derniers échos qui lui parvinrent des affaires du monde. Monseigneur Charles mourut au milieu de ce mois de décembre. Ses obsèques furent pompeuses, comme l'avait été sa vie. Toute la maison de Valois, dont on s'aperçut mieux de la voir ainsi en cortège combien elle était nombreuse et importante, toute la famille de France, tous les dignitaires, la plupart des pairs, les reines veuves, le parlement, la chambre des comptes, le connétable, les docteurs de l'université, les corporations de Paris, les vassaux des fiefs d'apanage, les clergés des églises et abbayes inscrites sur le testament, conduisirent jusqu'à l'église des franciscains pour qu'il y fût couché entre ses deux premières épouses compagnes, le corps, rendu bien léger par la maladie et par l'embaumement, de l'homme le plus turbulent de son temps. Les entrailles, ainsi que Valois en avait disposé, furent transportées en l'abbaye de Chaly, et le cœur, enfermé dans une urne, remis à la troisième épouse, pour attendre le moment où elle aurait elle-même une sépulture. Sur quoi le royaume subit une extrême froidure, comme si les os de ce prince, d'y avoir été descendu, faisaient geler d'un coup la terre de France. Il serait aisé pour les gens de cette époque de se rappeler l'année de sa mort. Il n'aurait qu'à dire « c'était au temps du grand gel ». La Seine était entièrement prise par les glaces. On traversait à pied ces petits affluents, tels le ruisseau de la Grange Batelière. Les puits étaient gelés, et l'on puisait aux citernes non plus avec des seaux, mais avec des haches. L'écorce des arbres craquait dans les jardins. Des ormes se fendirent jusqu'au cœur. Les portes de Paris connurent quelques grands dégâts, le froid ayant fait éclater même les pierres. Des oiseaux de toutes sortes, qu'on ne voyait jamais dans les villes, des geais, des pies, cherchaient leur nourriture sur le pavé des rues. La tourbe de chauffage se vendit à prix double, et l'on ne trouvait plus fourrure dans les boutiques, ni une peau de marmotte, ni un ventre de menuver, ni même une simple toison de mouton. Il mourut beaucoup de vieillards et beaucoup d'enfants dans les demeures pauvres. Les pieds des voyageurs gelaient dans leurs bottes. Les chevaucheurs délivraient leurs courriers avec des doigts bleus. Tout trafic fluvial était arrêté. Les soldats, s'ils avaient l'imprudence d'ôter leurs gants, laissaient la peau de leurs mains collée sur le fer des armes. Les gamins s'amusaient à persuader les idiots de village de poser la langue sur un fer de hache. Mais ce qui devait demeurer surtout dans les mémoires était une grande impression de silence, parce que la vie paraissait arrêtée.